Dimanche passé, je suis allé en Allemagne. J'ai pris l'avion et il m'avait été attribué une place au rang 14. Et je cherche ma place et je constate, quelque peu amusé, qu'il n'y avait pas de rang 13. Ça sautait de 12 à 14, sans doute pour calmer quelques âmes superstitieuse. Il n'empêche que j'étais assis au 13e rang. Et je me suis dit, c'est quand même curieux que des lignes aériennes fassent ce genre de cirque pour calmer les gens. Ça n'arriverait pas chez les chrétiens, n'est-ce pas? Et puis, j'ai appris que dans les cantiques que nous utilisons, les recueils Jeunesse en mission, il n'existe pas de cantique numéro 666. Je me suis dit, d'où vient cette crainte superstitieuse de certains chiffres? Alors pour 666, elle a un fondement, pourrait-on dire, biblique. Et ça tombe bien, ça se trouve dans un livre que nous sommes en train d'étudier, le livre de l'Apocalypse. Dans notre lecture de ce livre, nous sommes arrivés maintenant au chapitre 13. Je vous épargne un survol de tout ce que nous avons vu jusque-là. Il suffit de dire peut-être que Jean décrit une période très spéciale qui va de l'ascension du Christ jusqu'à son retour, ce que la Bible appelle communément les derniers jours. Et Jean décrit cette période encore et encore et encore. Et la meilleure comparaison que j'ai pu trouver, c'est un match de foot transmis à la télé. Vous savez, le moment où le but arrive. Et tout d'un coup, qu'est-ce que fait la télé? On vous montre le but encore et encore et encore, au ralenti, vu d'en haut, vu de droite, vu de gauche, de derrière le but, et que sais-je encore. On vous montre ce but de tous les points de vue possibles, partout où il y avait des caméras, on vous montre pour que vous puissiez voir le moindre détail. Et c'est exactement ça l'Apocalypse. Elle vous décrit cette période d'un point de vue, et puis d'un autre, et encore un autre, et encore un autre. Et à chaque fois, il y a des éléments qui s'ajoutent. Nous avons vu cette période vue, je dirais, des loges VIP, du quartier général de Dieu dans les cieux. Nous avons vu ces mêmes événements décrits sous l'angle des jugements, mais avec comme pivot la protection du peuple de Dieu. Ça, c'était les sept sceaux. Nous avons vu la même chose, les jugements, mais cette fois-ci, tels qu'ils sont subis par l'humanité. C'était les sept trompettes. Et la dernière fois, nous avons vu ensemble le chapitre 12. Et là, nous nous sommes concentrés sur Satan. Quel est son rôle dans cette affaire? Il était apparu comme sous les traits d'un dragon. Et aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 13. Et ce chapitre nous fournit des compléments fort intéressants par rapport à cette histoire. Nous avons quitté la dernière fois Satan, le dragon, au bord de la mer, sur la plage. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'au chapitre 13, nous voyons maintenant deux êtres surgir. Et le premier, c'est la bête qui monte de la mer. Je vais vous lire ce texte. Nous sommes donc au chapitre 13, à partir du verset 1er. Et je vis une bête qui montait de la mer. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Sur les cornes, elle avait 10 diadèmes et sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un énorme pouvoir. L'une de ses têtes était comme égorgée, mais sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre, étonnée, suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête et devant la bête en disant « Qui est comme la bête ? Et qui peut lui faire la guerre ?» Il lui fit donner une bouche pour faire des discours grandioses et blasphématoires et le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son temple et ceux qui habitent le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner le pouvoir sur toute tribu et tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé, dès la fondation du monde, se prosterneront devant elle. Que quiconque a des oreilles écoute bien. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est destiné à être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. Ainsi se manifeste la patience et la foi des saints. Qui est cette bête? La première chose que nous apprenons d'elle, c'est qu'elle monte de la mer. Alors la mer, dans l'Écriture, souvent elle est décrite sous un angle quelque peu hostile. Et très souvent elle est associée au peuple, aux nations, au peuple autre qu'Israël, au peuple païen. Et ici, quelque chose semble surgir de ces peuples, de ces nations. C'est une bête. Et le lecteur familier de l'Écriture, il en connaît des bêtes qui montent la mer. Suivant. Ces bêtes apparaissent dans le livre de Daniel, un chapitre qui est très important pour comprendre l'Apocalypse. Et nous lisons dans ce chapitre 7, entre autres, j'ai condensé un petit peu le texte, Daniel dit, il décrit une vision qu'il avait eue la nuit, et il dit, « Dans ma vision nocturne, je vis les quatre vents du ciel agiter la grande mer. Quatre bêtes énormes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion, puis il y eut une deuxième bête semblable à un ours. Après cela, je vis une autre comme un léopard. Cette bête avait quatre têtes. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis une quatrième bête terrible, effrayante, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle dévorait, elle pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et elle avait 10 cornes. Avez-vous remarqué, la bête que décrit Jean, elle ressemble drôlement à quelque chose qui nous est dit sur ces quatre bêtes. Vous trouvez les mêmes animaux évoqués. Et si vous faites le compte, vous verrez que la bête de Jean, elle a autant de têtes que la somme des quatre bêtes de Daniel, et elle a autant de cornes que toutes les quatre bêtes de Daniel ensemble. Autrement dit, la bête de Jean, elle résume ces quatre bêtes de Daniel. Et puis, il y a un élément très intéressant chez Daniel, parce qu'il nous donne la clé d'interprétation de sa vision. Et ça, c'est suffisamment rare pour le souligner. Et il nous dit, ces quatre bêtes énormes, ce sont quatre rois qui se lèveront sur la terre. Plus précisément, ce sont quatre empires. C'est l'empire babylonien, perse, grec, romain. Et la bête de Jean, elle résume toutes ces bêtes. Elle a tous les traits. C'est en quelque sorte la bête par excellence, ce qui sous-tend tous ces empires, ce qui fait les empires, l'essence même de ces empires est là, et c'est ça qui surgit de la mer. C'est la puissance étatique, mais dans ce qu'elle a de dévoyé en opposition à Dieu, parce que si vous regardez cette bête de Jean, elle a sur ses cornes, sur ses têtes, des noms blasphématoires. Et son discours est profondément blasphématoire. Et Cette bête a quelque chose de très impressionnant, comme tous ces empires l'ont toujours eu. Les gens disent, qui est comme la bête? Qui peut lui faire la guerre? Parce que cette puissance d'État, elle est très impressionnante. Peut-être vous avez encore en tête les images de la guerre du Golfe, quand l'Empire américain a déroulé et a montré tout son armement. C'est foncièrement impressionnant. Qui peut résister à cette force? Qui peut résister? Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais cette bête, elle singe le Christ. Et singe le Christ parce qu'elle avait une tête comme égorgée. Les têtes de la bête et ses cornes, ce sont probablement ses manifestations concrètes. Ce sont des rois, des leaders, des dirigeants. Et en tout cas, une de ses têtes est blessée, comme égorgée. Ça nous rappelle l'agneau, n'est-ce pas? Comme égorgée, mais elle s'en remet. Et elle est comme guérie. Et ça provoque l'étonnement des foules. Il est difficile de savoir précisément à quoi j'en fais allusion ici, mais beaucoup de spécialistes pensent qu'il parle du suicide de l'empereur Néron, qui précédait un petit peu le temps de la rédaction de l'Apocalypse. Et ce suicide avait jeté l'Empire romain dans de profonds troubles. Et ces troubles n'ont pris fin que lorsque l'empereur suivant est arrivé au pouvoir, Dioclétien, lui aussi un persécuteur de l'Église. Et en quelque sorte, l'Empire a repris du poil de la bête, si vous me passez l'expression. Donc, c'est possible que Jean a en tête ces événements qui sont assez récents pour lui, mais bien sûr, il est difficile d'être tout à fait affirmatif. En tout cas, cette bête, elle est forte, elle est puissante. Le diable, le dragon, lui donne tout son pouvoir et elle le sait, elle est orgueilleuse, elle se complaît dans sa puissance et elle blasphème Dieu. Et si vous vous souvenez de ce que nous avons vu au chapitre 12, Satan était resté furieux parce qu'il n'avait pas réussi à anéantir le Christ. Et maintenant, il a décidé de s'acharner sur ceux qui le suivent, sur l'Église. Et la bête va s'inscrire dans cette politique-là et elle va s'attaquer à l'Église. Et nous le sentons, cette tension-là, dans la fin de notre petit texte, lorsqu'il nous est dit « Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. » L'Église va souffrir de la bête. La bête va s'attaquer à l'Église. Elle va en jeter en prison. Et elle va tuer quelques-uns. Mais ce qui est demandé aux enfants de Dieu, c'est la patience et la foi, la persévérance et la foi. Mais ce n'est pas encore tout, parce que nous aurons la visite d'une deuxième bête. Et celle-ci, elle a une origine différente. C'est la bête qui monte de la terre. Notre texte, au verset 11, continue. « Et je vis une autre bête qui montait de la terre. Elle avait deux cornes comme un agneau, mais elle parlait comme le dragon. Elle manifeste tout le pouvoir de la première bête devant elle, et elle fait en sorte que le monde et ceux qui l'habitent se prosternent devant la première bête, celle dont la plaie mortelle a été guérie. Elle accomplit de grands signes. Elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égare les habitants de la terre par des signes qui lui a été donné d'accomplir devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image pour la bête qui a été blessée par l'épée mais qui a survécu. Il lui a été donné d'insuffler la vie à l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse en sorte que ceux qui ne se prosternent pas devant l'image de la bête soient mis à mort. Elle fait en sorte que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les libres et les esclaves reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre s'il n'a pas la marque de la bête ou le chiffre de son nom. Ainsi est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Car c'est un chiffre d'homme. Et son chiffre est 666. On dirait que la seconde bête ne vient pas de l'extérieur des nations comme la première, mais de l'intérieur des terres, mais monte de la terre. Et ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, elle ressemble à un agneau. Il y a quelque chose de trompeur dans son apparence, quelque chose qui fait qu'on l'associerait volontiers à l'agneau dont il était question plus tôt. Mais son discours n'est pas de ce type. Son discours est bel et bien celui du dragon, du diable. Probablement, nous avons affaire ici à quelque chose qui relève de l'enseignement, quelque chose qui entraîne les gens. Et en fait, la tâche de la deuxième bête, c'est d'entraîner les gens vers la première. C'est une bête auxiliaire, pourrait-on dire. Et je ne sais pas si vous l'avez senti, mais nous avons ici une caricature de la Trinité. Je vous ai dit, la seconde bête, elle singe le Christ. La troisième bête, elle singe le Saint-Esprit. Elle fait à l'égard de la bête qui monte de la mer exactement ce que l'Esprit fait à l'égard de Jésus, c'est-à-dire elle entraîne des gens vers la bête. Hein? Elle séduit avec un discours, elle montre des miracles, hein? Elle manifeste le pouvoir, elle fait descendre le feu du ciel, une sorte de deuxième Pentecôte satanique. Hein? Il y a de grands signes. Et tout est fait pour que les gens s'embarquent derrière la première bête. Nous sommes là, me semble-t-il, dans quelque chose qui a une dimension religieuse, ou du moins idéologique, quelque chose qui se déploie pour pousser les gens derrière l'État, la puissance étatique dévoyée qu'est la première bête. C'est, me semble-t-il, la religion ou l'idéologie qui se met au service de l'État totalitaire et persécuteur. Et peut-être quelque chose qui vient de l'intérieur de l'Église même. Hein? En tout cas, quelques traits de cette bête pourraient le faire penser. Alors, au temps de Jean, les choses étaient relativement claires et on comprend assez aisément ce que Jean pouvait voir comme tel dans son environnement, parce que Jean vivait dans un empire qui était marqué par le culte de l'empereur. L'empereur était considéré comme un être divin et certains d'entre eux se faisaient appeler Dominus et Deus, c'est ce qui veut dire Seigneur et Dieu. Et ceux qui refusaient de célébrer ce culte-là, ils étaient en grande difficulté. Et notamment sur le plan économique. C'est quelque chose d'intéressant. Dans nos textes, nous voyons, elle fait de sorte que personne ne puisse acheter ou vendre s'il n'a pas la marque de la bête ou le chiffre de son nom. Et là, vous pouvez voir un exemple contemporain de ce que ça pouvait être. Ici, je vous ai montré une pièce romaine. Et je vous ai expliqué ce que signifie l'inscription. Hein, l'empereur Domitien, Auguste grand pontife. Mais le plus intéressant, c'est le deuxième côté de cette pièce qui est en l'honneur du fils de Domitien qui vient de mourir. Et il est dit ici, il est appelé ici Divus César. Hein, ce qui veut dire le divin César. Donc, quelqu'un qui, dans l'Empire romain, à cette époque-là, faisait du commerce, il utilisait ce genre de pièces, et sur la pièce était inscrit que l'empereur était divin. C'est un blasphème, et on comprend quelque part que ce qui nous est dit, qu'il n'était pas possible, enfin qu'il n'est pas possible de faire du commerce sans se compromettre avec la marque de la bête, en l'occurrence ces pièces très particulières. Mais il y a encore autre chose qui fait peur. Un chiffre mystérieux qui se trouve à la fin de notre texte. Et je crois que le verset 18 est sans doute de ceux qui ont fait couler le plus d'encre parmi tous les versets de l'Apocalypse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Alors, il y a des myriades d'interprétations qui ont été proposées. La plupart, je pense, ne valent même pas le papier sur lequel elles sont écrites. Mais je voudrais vous présenter les deux qui me semblent les plus intéressantes, les plus raisonnables et qui peut-être ne sont même pas exclusives l'une de l'autre. Avant d'aborder cette question, je voudrais simplement souligner un point. Le chiffre de la bête, ce n'est pas 666. Parfois, on entend dire ça. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Le chiffre de la bête, c'est 666. Une petite nuance qui mérite quand même d'être soulignée. Alors, comment on a compris ce chiffre? Une interprétation qui est loin d'être idiote s'intéresse justement à cette répétition de 6. Alors, je viens de vous dire que ce n'est pas 666, mais quand vous lisez le chiffre dans l'original grec, vous entendez 3 fois 6. On n'a pas ça en français, malheureusement. En anglais, vous pouvez voir ça, par exemple. 666. Donc, quand vous prononcez le nom, il y a 3 fois 6 qui résonne. Et 6, qu'est-ce que c'est? 6, c'est le chiffre de l'homme, d'une certaine manière. Parce que l'homme a été créé le sixième jour. Donc, dans un esprit familier de la Bible, 6, ça fait penser à l'homme, mais plus encore peut-être, 6, c'est 7 moins 1. Et 7, vous le savez tous, je crois, 7, c'est le chiffre de ce qui est complet, de ce qui est achevé. La complétude, pourrait-on dire. Perfection au sens achèvement. Et 6, c'est un peu moins. C'est pas tout à fait 7. Ça n'arrive pas tout à fait à l'achèvement. Et donc, 3 fois 6, c'est dans quelle dimension que vous regardiez, c'est inachevé. On pourrait dire c'est l'échec absolu. C'est l'inachèvement poussé à son extrême. Et donc, il y a peut-être ça dans ce chiffre qui marque la bête, parce qu'elle pousse jusqu'à une certaine limite une attitude qui n'arrive pas à arriver à être achevée comme la création de Dieu. Ça, c'est la première approche de voir ici un chiffre qui symbolise quelque chose d'humain et d'inachevé. C'est intéressant, mais si vous lisez bien, Jean, il parle de calculer le chiffre de la bête. Et je n'ai pas vraiment fait de calcul pour vous parler de la valeur symbolique de ça. Donc peut-être il vise autre chose, en complément peut-être. Alors, et là on entre sur un terrain un petit peu difficile pour nous parce que c'est d'époque. Aujourd'hui, on est moins familier de ça, mais à l'époque, on aimait bien calculer les chiffres de noms. Nous avons trouvé, enfin les archéologues ont trouvé à Pompéi, sur un mur, un graffiti. Et ce graffiti dit, celle que j'aime a le numéro 545. Et évidemment, elle ne s'appelle pas 545. Mais ça veut dire que son nom, si on calcule la valeur numérique de son nom, on arrive à 545. Et ça, c'est pratique d'exprimer des choses comme ça, parce que comme ça, elle savait probablement que son nom valait 545, et en voyant le graffiti, vous vous dites, ah tiens, il a pensé à moi. Mais les autres ne savaient pas. Hein. Évidemment, ce n'est pas totalement univoque. Hein. Il y a plusieurs noms, sans doute, qui valent 545. Mais toujours est-il que c'est une façon intéressante de parler d'un nom sans le prononcer. Or, Jean nous dit 666, c'est le chiffre de la bête. Alors, on plonge un petit peu dans les langues publiques. Je vous demande de faire confiance. Je ne vous raconte pas de pobard. Bête, le mot qui est traduit par bête, c'est le mot grec terion. Et maintenant, vous allez calculer la valeur numérique de ce mot. Alors, Jean est un juif, donc il le fait probablement avec le système juif où à chaque lettre de l'alphabet hébreu, on attribue une valeur. Ça, c'est une règle que tout le monde connaît. Vous pouvez même la trouver sur Wikipédia, si vous voulez. Hein, c'est totalement univoque. Et donc, on écrit ce mot en lettres hébraïques, et après, on fait le calcul. Et, si je regarde Terion, donc ça, j'ai écrit en hébreu la même chose, Terion, et on calcule. Et c'est 666. Hein? Alors, le Noun, ici, 50, le Wav, 6, et ainsi de suite. Ça, c'est une lettre qui est à la fin de l'alphabet, donc a une grande valeur numérique, 400. Faites la somme, vous êtes à 666. Ça, c'est quand même curieux. C'est comme si Jean nous donnait ici une clé pour en quelque sorte, trouver la bonne méthode. Effectivement, selon cette méthode, si elle est la bonne, le chiffre de la bête, c'est bien 666. Mais Jean nous dit, c'est un chiffre d'homme. Et donc, vous pouvez vous amuser à chercher des noms d'hommes et calculer leur valeur et vérifier si oui ou non vous arrivez à 666. Vous imaginez, les gens ont calculé tous les noms imaginables et possibles. Je vous rassure tout de suite, j'ai calculé mon numéro, c'est pas 666. Hein? Et pour vous rassurer totalement, j'ai calculé celui de François Hollande, c'est pas non plus 666. Mais il y a une solution qu'on a trouvée et qui n'est pas bête. C'est l'empereur Néron. Alors, Néron, il est. Vous voyez sa trace un peu dans l'Apocalypse, si vous savez bien lire. Et Néron, si vous écrivez empereur Néron en grec, et comme je fais tout à l'heure, vous traduisez ça, enfin vous transposez ça en hébreu, c'est pas un procédé totalement univoque. Donc, un peu de marge, hein. Mais. Vous arrivez donc à cette expression-là, et je fais mon calcul, et vous ne serez pas surpris si je vous apprends que, là encore, on arrive à 666. Il est fort possible que c'est ça que Jean voulait nous dire, en tout cas à ceux qui écoutent. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la bête, eh bien, pas besoin d'aller très loin, regardez ce qu'a été Néron. Hein, à l'époque de Jean, il est mort. Hein. Regardez ce qu'il a été, ce qu'il a fait. Hein. Non pas que Néron, en tant qu'homme, était la bête absolue, mais il en était un très digne représentant de ce pouvoir absolu, dévoyé, qui s'attaque à l'Église. Et qui se fait encenser par la deuxième bête. Une idéologie qui sert ses fins, l'empereur romain et le culte de sa divinité. Bien, alors vous me dites, bon, tout ça c'est très intéressant, mais en quoi ça nous concerne, nous, aujourd'hui, 21e siècle? Ça fait un bail que Néron est mort, et tout ça, hein, on ne le fait pas tous les jours, calculer des chiffres comme ça. Mais il faut croire que Jean a quelque chose d'important à dire aux chrétiens qui vivent dans les derniers jours entre l'ascension du Christ et son retour, et nous en faisons partie. Et je crois que Jean a quelque chose à nous dire, notamment sur notre relation à l'État. Alors, laissez-moi résumer l'enseignement biblique à cet égard en trois propositions. La première chose que nous apprenons dans l'Écriture concernant notre relation à l'État, c'est que nous devons absolument être des citoyens exemplaire. Et l'un des textes majeurs qui aborde cette question, c'est Romains 13. Très important. Et c'est facile à mémoriser, voyez-vous. Romains 13, Apocalypse 13. Ces deux vont ensemble. Il ne faut jamais les séparer, vous allez voir. Et Romains 13, il va très fort. Romains 13 dit que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça, c'est fort de tabac. Et, je veux dire, Paul écrit ça quand Néron est empereur. Nous devons respecter l'État comme quelque chose de voulu par Dieu. Autrement dit, le chrétien ne saurait être, à mon sens, il ne saurait être anarchiste. Il accepte la délégation de pouvoir qui s'opère entre Dieu et les instances de l'État, hein, qui exercent un mandat divin. Et par conséquent, le chrétien se doit absolument d'être exemplaire dans son attitude envers l'État. Il remplit ses devoirs citoyens. Il va voter. Hein, si on le lui demande, il fait son service militaire. Hein, il paye ses impôts. Il ne triche pas. Je ne veux pas qu'un chrétien soit pris en flagrant délit de tricher à l'impôt. Hein, il déshonore son Seigneur en le faisant. Hein, il fait tout ce qui lui est demandé en tant que citoyen et il prie aussi pour les autorités. Ce sont des choses, je crois, bien connues dans l'Église et qu'on répète souvent, et c'est très important. Le souci, c'est que Romains 13, à lui seul, ne dit pas tout. Car l'État peut être bestial. Alors, faut-il lui être soumis dans cette configuration? Vous voyez, quand le nazisme a fait des ravages en Allemagne dans les années 30-40, l'Église protestante, pour ne citer qu'un exemple, et je ne suis pas en train de distribuer de mauvais points, mais c'est un constat, elle n'a pas été à la hauteur. Elle a laissé faire beaucoup de choses. Elle a laissé s'installer un climat de terreur, sans rien dire. Et peut-être parce qu'elle était trop accrochée à Romains 13, voyez-vous. Et elle a peut-être oublié Apocalypse 13, qui nous rappelle que l'État peut devenir monstrueux et qu'il se met alors au service de Satan, du dragon, ce qui n'est pas une option pour un chrétien. C'est pourquoi je crois qu'il faut ajouter jusqu'à un certain point. Il faut être soumis à l'État, mais jusqu'à un certain point. Et si l'État se met au service du mal, il faut lui résister. Rappelez-vous ce que nous avons vu en étudiant la dernière fois l'histoire de Josué, de Rahab et d'Acan. Nous avons dit que notre loyauté ultime ne doit pas être avec autre chose que Dieu. Et c'est là aussi. Notre loyauté ultime ne doit pas appartenir à l'État, elle doit appartenir à Dieu. Et lorsque l'État s'oppose à Dieu, notre choix est vite fait. Lorsque la bête montre sa sale gueule, nous devons entrer en résistance. Il s'ensuit quelques conséquences pratiques. L'Église ne doit pas être inféodée à l'État. Et selon les époques et selon les temps, vous voyez des choses où la religion a joué un rôle utile à l'État. Et on le voit ça aujourd'hui aussi. Si vous allez dans certains pays tentés par l'installation d'un califat, avec instauration de la charia et tout ça, la religion sert des gens qui probablement ne sont pas avant tout des religieux, mais qui ont envie de pouvoir. Et cette volonté de manipulation peut viser aussi l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais si vous allez aux États-Unis, vous pouvez aller dans des églises, et devant, dans l'Église, il y a le drapeau américain. Et quand je vois ça, j'ai envie de l'arracher, de le jeter dehors. Ça se passerait mal, sans doute, mais je ne peux pas concevoir que le prédicateur parle sur le fond de Stars and Stripes. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est scandaleux de mêler d'un côté la foi et d'un autre côté une espèce de nationalisme qui se veut un petit peu chrétien, qui mêle les deux allègrement. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est très malsain. Ça existe et il faut être sur nos gardes. Chez nous, en France, cette tentation n'existe pas. Parce que nous avons un autre phénomène dans notre société qui est appelé la laïcité. Alors, c'est un vaste sujet et très délicat et très d'actualité. Je ne pourrais que l'effleurer, mais je pense qu'il faut être conscient d'une chose, c'est que la laïcité d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Quand la laïcité a été instaurée, c'était la volonté de ne pas faire de favoritisme. L'État avait un regard plutôt bienveillant, me semble-t-il, envers les religions. Il devait garantir la liberté de culte, c'est une de ses tâches importantes. Et il a instauré le principe qui me semble profondément sain de ne pas faire de favoritisme, ni de discrimination. Donc il les traite tous de la même façon. S'il offre quelque chose à l'une, il doit aussi le donner à l'autre. C'est assez sain. Et vous imaginez bien que dans une France marquée par le catholicisme, les protestants ont applaudi des deux mains. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on assiste à un glissement où la laïcité devient la volonté de pousser le religieux hors du domaine public. Donc on ne veut plus entendre parler de ces choses. Ça c'est bien, mais c'est pour la sphère privée. Vous faites ça chez vous, tranquille, mais on ne veut pas ça sur la place publique. Et cette semaine encore, on a appris que le gouvernement a viré tous les religieux du Conseil consultatif national d'éthique. Ça, c'est vous voyez précisément cette tendance-là s'affirmer. Ce n'est pas très grave dans l'absolu, mais c'est un pas de plus vers la marginalisation de la foi. Et quand vous savez ce que c'est la foi chrétienne et son mandat, c'est-à-dire d'aller vers les peuples, d'enseigner à tous la bonne nouvelle, vous vous rendez compte que ces tendances vont entrer en collision totale. Si on vous pousse dehors, alors que nous nous sentons obligés d'occuper aussi l'espace public, on va au clash. Et il est possible, je n'ai pas évidemment de révélation à faire, mais il est possible que demain, ça deviendra difficile d'être chrétien en France. C'est tout à fait possible que l'État s'érige contre nous. Et peut-être un jour, nous serons considérés comme ennemis d'État. Si cela devait se produire, ne soyons pas étonnés. Il y a quelque chose d'assez logique, et Jean nous avertit. C'est que l'État peut très facilement devenir un monstre. Alors, je vous ai dit, quand ça se produit, nous devons entrer en résistance. Et je pense que c'est juste, mais je dois tout de suite... je dois tout de suite ajouter, en fait, une précision. Nous ne devons pas être résistance à la manière de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que nous ne sommes pas du monde, et nous avons un chef autre. La résistance qui a fait la résistance aux nazis en France, elle a utilisé les armes des nazis contre eux. Ces gens, pas tous, mais dans l'ensemble, si on regarde ce qu'ils ont fait, ils ont posé des bombes, ils ont tué, ils ont torturé pour le bien. Ce n'est pas une option pour nous, voyez-vous. Notre résistance, qui sera réelle, elle devra être absolument et toujours totalement non-violente. Elle doit s'inspirer de notre Seigneur qui a dit de ne pas répondre au mal par le mal et de bénir ceux qui nous persécutent comme lui-même l'a fait, vous le savez bien. Donc, résistance, oui, active, oui, tous les moyens légaux, oui, mais pas de violence, jamais. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Je pense que vous l'avez compris, que ce que nous enseigne Jean, ce n'est pas d'avoir une peur superstitieuse du chiffre 666, ou de nous demander si c'est plutôt Poutine ou Obama qui correspondent à la bête qui monte de la mer, Les gens qui utilisent l'Apocalypse de cette manière-là, ils perdent leur temps et ils vous font perdre le vôtre. Donc, Jean nous ouvre les yeux sur la grande image, sur l'action du diable dans le monde et sur le fait qu'il l'utilise pour arriver à ses fins, à savoir détruire l'Église, qu'il utilisera aussi, quand ça lui semble opportun, l'État et son idéologie, tout cela pour écraser l'Église. Nous sommes avertis, cela doit nous inciter, je crois, à rester vigilants, tout en nous efforçant à être des citoyens exemplaires. Et à ne pas être surpris lorsqu'un jour nous découvrons que nous sommes dans la ligne de mire du dragon. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est destiné à être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. Ainsi se manifestera la patience et la foi des saints.